Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le 17 mai dernier, un grand coup de tonnerre a retenti au Vatican avec la publication d'un texte au vitriol sur la dérive du monde de la finance actuelle appelé « Considération pour un discernement éthique sur certains aspects du système économique actuel, égoïsme aveugle, culture profondément amorale, cannibalisme économique et grave violation éthique ». Le pape semble avoir sorti le fouet tel Jésus dans les évangiles avec les marchands chassés du temple. Une charge importante, de l'aveu même du préfet pour la Congrégation pour la doctrine de la foi, un texte qui comporte une réelle valeur doctrinale et dont je vous propose aujourd'hui les lectures et commentaires. Finance internationale, le pape François tape du poing, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église de ce jour, avec nous autour du plateau Marcel Raymond, directeur du CERAS, Centre de Recherche et d'Action Sociale lié aux Jésuites, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes avec nous en direct depuis la Belgique. Décidément, on n'arrête pas le progrès à Radio Présence. C'est Bernard Ibal, agrégé et docteur en philosophie et président des Semaines Sociales de Toulouse. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Donc je le disais en introduction, ce texte qui peut-être est passé inaperçu pour beaucoup, en tout cas le journal La Croix en a fait quand même sa une le vendredi 18 mai dernier, que l'on va commenter ce matin, peut-être en deux mots d'introduction. Est-ce que vous pourriez juste nous présenter le CERAS, Marcel Raymond? Parce que les Semaines Sociales à Toulouse, on voit à peu près ce que c'est, mais le CERAS probablement beaucoup moins, en deux, trois mots pour situer qui vous êtes et d'où vous allez nous parler.
Oui, donc moi je suis le directeur, je suis un jésuite. Le CERAS, c'est un centre de recherche et d'action sociale qui a une centaine d'années, plus de 100 ans, qui a travaillé pas mal avec l'action populaire, l'action donc les catholiques de gauche, disons, et qui depuis plusieurs dizaines d'années édite une revue qui s'appelle la revue Projet. Et l'idée du CERAS, c'est de promouvoir la doctrine sociale de l'Église sous toutes ses formes, et en particulier pour tout ce qui sont les différentes questions sociales d'actualité.
Alors, quelques mots d'introduction avant qu'on se plonge dedans. Donc le titre de la journal La Croix, c'était « L'Église s'attaque aux excès de la finance ». Quand on tourne la page, on tombait sur cette déclaration, enfin ce chapeau, un texte inédit qui s'attaque de façon directe et vigoureuse et experte aux excès de la finance mondiale. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un texte de ce genre, Bernard Ibal, mais en quoi est-ce un coup de tonnerre malgré tout?
Oui, on peut parler effectivement d'un coup de tonnerre, mais on peut peut-être nuancer l'idée de coup de poing, parce qu'il a bien eu lieu, le coup de poing, mais avec Laudato Si, avec la joie de l'Évangile.
Donc deux précédentes exhortations apostoliques.
Voilà, 2013 et 2015. Le pape, ou plus exactement la Congrégation pour la doctrine et la foi, mais corroborée par le pape, donne des précisions, et des précisions énergiques, que beaucoup d'économistes réclamaient en disant « Oui, on a lu Laudato Si, mais on est peut-être d'accord sur les finalités, mais comment on fait quoi ?» Il y a des difficultés précises en économie. Et là, il y a effectivement une réponse très précise, avec des concepts économiques, parfois même très techniques. Un autre style, c'est plus le style brut de décoffrage, c'est un style académique, parfois nuancé, même si, comme vous l'avez dit, il y a une condamnation énergique de l'économie virtuelle, ce qu'on appelle l'économie virtuelle. Il y a, par exemple, on ne trouve plus l'idée de décroissance relative des pays riches qui avait suscité...
Et qui était mentionné dans l'encyclique
Laudato Si. Dans l'encyclique Laudato Si, oui. Et j'allais dire de façon différente, mais pas contradictoire. Ce texte parle, au paragraphe 19, de croissance et diffusion vont de pair. Hein, croissance et diffusion vont de pair. Le paragraphe 31 dit soutenir la croissance économique réelle. Réelle, hein, pas évidemment virtuelle. Donc on a là quelque chose qui est académiquement... très structuré.
Marcel Raymond, donc ce texte donc, a été publié conjointement par la Congrégation pour la doctrine de la foi et donc le Dicaster pour le service du développement humain intégral. L'un de ses préfets, si je ne me trompe pas, toujours dans le journal La Croix, disait qu'évidemment, même si ce texte, on le verra au fur et à mesure de cette émission, propose des solutions parfois, on va dire, techniques, éthiques et techniques, il a une réelle valeur doctrinale. C'est pareil, que, peut-être en introduction, qu'est-ce que vous diriez quant à la valeur et l'importance de ce texte.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire. Mais ce qui est un peu nouveau aussi, c'est le fait que c'est la Congrégation pour la doctrine de la foi qui co-signe le texte. Et ça, c'est assez nouveau parce que pour l'instant, tout ce qui touchait à la société et entre autres au travail, à la finance, à l'économie, disons, relevait principalement de la doctrine sociale de l'Église. Et la partie plutôt éthique et morale qui est liée à la doctrine de la foi était tout à fait séparée. Et donc ici, on a une vision, entre guillemets, pas négativement, mais entre guillemets, moralisatrice. Et on va voir beaucoup de termes dans le texte qui vont être des termes éthiques, des jugements moraux, disons ceci est immoral, ceci est con, est illégitime. Et il y a là derrière un poids énorme parce que quand même on connaît l'importance de la Congrégation pour la doctrine de la foi dans le Vatican. C'est quand ils prennent une parole, elle est extrêmement importante. C'est un des tout grands départements, disons. Et donc c'est normal quand on entend que ce texte a une valeur doctrinale. C'est-à-dire un chrétien qui se veut être chrétien ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent qu'il a, et il y a des comportements qui sont immoraux ou qui sont de la... Enfin, normalement, je dirais plus... Enfin, classiquement, on parlerait de gestes de péché ou de structures de péché. Voilà, le mot n'apparaît pas, mais il y a derrière quand même un discernement, comme dit le titre, éthique.
Alors, rentrons un petit peu plus dans le volet critique. Je propose donc que la première partie de cette émission soit dévolue d'abord au constat, ce qui va être l'occasion peut-être de faire un peu de pédagogie pour tous ceux qui ne sont pas familiers du monde de la finance. Alors, si on reste sur les considérations générales, j'ai noté cette phrase qui a été retenue aussi par pas mal de journalistes. La récente crise financière, donc la crise financière de 2009, je rappelle en tout cas au fur et à mesure des émissions, un chiffre qui est ressorti en France, ça a donné 1 million de personnes en plus sous le seuil de pauvreté, hein, c'est ce que dit le Secours catholique, donc ça c'est concret. La récente crise financière aurait pu être l'occasion pour développer une nouvelle économie plus attentive aux principes éthiques et pour une nouvelle régulation de l'activité financière, et le texte se poursuit, dit qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, d'efforts positifs qui ont été accomplis, mais aucune réaction cependant n'a permis de repenser ces critères obsolètes qui continuent de gouverner le monde. Quelle est la grande accusation, comment vous la résumeriez, Marcel Raymond, de ce texte, probablement donc, qui reprend d'autres déclarations passées, quelle est la principale dénonciation de ce texte? J'ai l'impression que c'est une inversion de valeur, comment vous l'expliciteriez?
Oui, donc ici, si je me place au niveau de la doctrine sociale de l'Église, tous les grands textes des papes, depuis Rerum Novarum, pointent toujours le même problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme disparaît, n'est plus la fin en soi, mais devient un moyen comme un autre. Le travail prend le pas sur l'homme, les machines prennent le pas sur l'homme, et ici, c'est un peu la même chose, c'est dans le même contexte, mais tout aussi dangereux et grave, c'est que les finances, l'argent, prennent le pas sur l'homme. Donc, on arrive à une économie qu'on appelle virtuelle ou déshumanisée. Et ce qui est le point qui ressort partout, c'est que l'homme devient, et moi j'ai entendu Bruno-Marie Dufay à Saint-Étienne lors des rencontres nationales de l'ACO.
Bruno-Marie Dufay, juste qui est-ce Bruno-Marie Dufay,
alors,
qui est-ce?
C'est le président donc du Dicaster pour le service de développement intégral.
Le secrétaire,
c'est un des signataires de ce document, et il en faisait la promotion justement devant l'Assemblée, et il insistait combien la finance actuellement considère l'homme comme étant un simple moyen, et allant jusqu'à même dire que c'est un coût, et on arrive vers la culture du déchet, et l'homme devient lui-même un déchet qui est rentré dans une machine et qui en sort déchiqueté. Et je pense que ça, c'est vraiment la critique centrale de ce document, c'est de dire l'économie et les finances en particulier, quand elles sont détachées de l'humain, détachées de la réalité, mais entre autres considérées du point de vue humain, du milieu social, du lien, du bien commun, va à l'encontre des valeurs chrétiennes. Un des principes, c'est le travail pour le bien commun, pour la destination universelle des biens. Donc tout doit concourir au bien-être de tous, de la maison commune, comme dira Laudato si. Et si la finance commence à fonctionner en cercle vicieux sur elle-même, pour faire de l'argent avec de l'argent, ben simplement on va créer des déchets, c'est-à-dire on va créer des souffrances. Et je pense, je m'attendais à un texte encore un peu plus fort venant de connaissant l'histoire du pape. Il faut savoir quand même qu'il est argentin, et s'il y a bien des pays qui ont vu ce que la finance...
Alors justement, la spéculation... oui, est-ce que vous pouvez faire une précision, expliquer justement ce qui est pour vous, enfin évident, mais ce qui est peut-être pas très bien connu des auditeurs?
Voilà, donc un pape qui vient de l'Argentine, alors il faut connaître l'histoire de l'Argentine un tout petit peu, mais il y a eu une immense crise dans les années 2000, où justement l'argent n'était plus accessible. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il suffit qu'ils s'imaginent maintenant le Venezuela, on voit comment un pays où l'argent a disparu, ou simplement n'est plus lié à l'économie réelle.
14 000% d'inflation au Venezuela.
Voilà. Et donc, à ce moment-là, les gens ne peuvent plus manger, les gens tombent en pauvreté, comme on dit, mais c'est enfin, vous en avez parlé ici au niveau de la crise actuelle, des subprimes et autres. C'est pas un jeu d'argent, il y a toujours des souffrances, et il y a toujours des déchets. Et on se rend compte qu'en Amérique latine en particulier, plusieurs pays ont connu ça, et donc, c'est resté dans leur chair. Et dans l'audat aussi, il y a des phrases extrêmement dures sur la finance qui étouffe l'économie, qui étouffe les gens.
Alors, voilà, j'aimerais qu'on rentre un tout petit peu dans le concret, parce que le texte est assez concret. Oui. J'ai dit quelques expressions en introduction. Oui. Hein, culture profondément amorale, hypocrisie, cannibalisme économique, extrêmement immoral, grave violation éthique, etc. etc. Alors, il est parlé de plusieurs réalités financières. J'aimerais que vous nous explicitiez certaines d'entre elles pour faire un travail, on va dire, de vulgarisation. Une des premières réalités qui est citée, c'est le high frequency trading. Est-ce que vous pouvez expliquer, Bernard Ribal, ce que c'est, ces banques dans lesquelles, ou ces marchés, ces marchés où on fait du trading, mais c'est presque les ordinateurs qui ont remplacé la spéculation financière. Oui. Expliquez-nous ce que ça veut dire, high frequency trading.
Oui, pour bien comprendre ça, je dirais juste avant que l'idée générale, l'une des entrées pour lire ce texte, c'est l'opposition entre l'économie réelle, c'est-à-dire les entreprises qui achètent, qui produisent et qui vendent, et l'économie virtuelle qui joue sur la spéculation financière, c'est-à-dire qui est un véritable marché de l'occasion, puisque dans la spéculation, on n'achète que des choses qui existent déjà. Le but de la financiarisation, le texte y insiste, c'est de financer l'innovation des nouvelles entreprises. Or là, il ne s'agit pas du tout de ça. On achète des choses qui existent déjà. Au moment où leur prix n'est pas très élevé, on fait monter les prix, on revend. Et c'est ainsi qu'on crée des bulles financières, c'est-à-dire des excès d'évaluation et de prix des actions qui, à un moment donné, crève. Et le trader, c'est celui qui est à la manœuvre là-dedans. Hein. On a vu pas mal de scandales de traders, mais c'est encore pire aujourd'hui. Alors que, tout de suite après la crise de 2007, les subprimes, et puis celle de 2009, un certain nombre d'hommes politiques et d'économistes avaient dit « on va changer le statut du trader ». C'est plus possible comme ça. Et l'idée était très bonne. Il s'agissait non plus de payer le trader en fonction de ce qu'il fait gagner, parfois des milliards, de ce qu'il fait gagner à l'organisme, à la banque qu'il représente, mais on va le rémunérer, en plus de son salaire de base, on va le rémunérer sur une période, mettons, d'un an, où on va faire le ratio entre les pertes et les gains, et il aura une prime en fonction de ce ratio. Ça a failli marcher, mais en fait, dans la réalité, ça ne marche pas. D'abord parce que tous les pays ne sont pas engagés là-dedans, mais aussi et surtout parce qu'à un moment donné, quand un trader a, à tort ou à raison, une excellente réputation, tous les moyens sont bons pour le rémunérer en contournant les lois, et ce à peu près, quels que soient les doigts. Alors, l'expression anglaise que vous avez citée signifie la rapidité des échanges. Il peut y avoir plusieurs milliers d'échanges.
Mais c'est-à-dire que c'est maintenant des algorithmes en fait qui font la spéculation financière.
Exactement. Et qui traite des millions de données, évidemment en quelques secondes, et donne des soi-disant solutions d'achat et de vente.
Marcel Raymond, est-ce que vous pouvez expliciter certaines des réalités qui sont décrites dans ce texte ? Donc j'en ai cité une, là il y a aussi donc les crédits au risque, les fameux subprimes, entre autres les fameux subprimes, ou ce qu'on appelle aussi le shadow banking system, ou les CDS. Est-ce que vous explicitez certains de ces termes pour aider à se plonger dans la réalité ?
C'est vrai que c'est assez compliqué. Moi, j'enseigne dans une faculté d'économie ici à Namur. Ce sont toujours des techniques très mathématiques et très optimisées, comme on dit. Donc, on essaie de trouver la porte d'entrée pour gagner le plus d'argent au plus vite. Et c'est là où c'est un peu la critique du document, c'est de dire que c'est complètement décollé de la réalité.
Alors, prenez l'exemple des CDS.
Les crédits défaut swap, c'est clair que lorsque je fais un crédit à une entreprise, je donne de l'argent, c'est comme si l'entreprise peut faillir, peut perdre, et donc mon crédit va être perdu. Donc je vais aller voir une assureur et je vais lui demander de m'assurer sur l'argent que j'ai donné. C'est-à-dire si j'ai donné 100 euros, je vais voir un assureur en disant il y a une certaine chance, il y a peut-être 10 chances sur 100 que je vais le perdre. Est-ce que vous pouvez m'assurer que vous me rendrez les 100 euros que je vais donner si jamais la personne fait faillite, et l'assureur me dit OK, pour 10 euros, je vous fais cette assurance. C'est comme elle assure tellement de monde, avec 10 euros, elle peut assurer les miens et peut-être d'autres. Ce qui se passe, c'est que j'ai donné mes 100 euros à une entreprise, ça, c'est très bien et c'est normal que je m'assure. Mais à un moment donné, je vais, et c'est là où il y a le cercle vicieux, l'immoralité, c'est-à-dire que je ne vais rien donner. Mais je vais quand même aller voir l'assureur en disant, je n'ai rien donné à cette entreprise, mais est-ce que vous pouvez, pour 10 euros, me rembourser 100 euros que je n'ai pas donné si elle faisait faillite? Et donc, c'est un défaut swap, c'est-à-dire que j'arrive à m'assurer contre le fait qu'une entreprise aille mal. Et donc, c'est aller à l'encontre de l'idée même de l'économie. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'assureur, lui, va quand même m'assurer. Et moi, mon intérêt, et c'est ça où c'est vicieux, l'intérêt de celui qui a fait cette assurance va être que l'entreprise aille mal. Et donc, alors que normalement, l'argent doit être pour que les entreprises aillent bien, eh bien, je parie sur le fait que les entreprises aillent mal. Et ça se fait aussi au niveau des pays. Il y a des gens qui se sont assurés, c'est-à-dire qui ont racheté des dettes de pays en disant « le pays va tomber en faillite et à ce moment-là, je vais pouvoir me recevoir l'assurance ». Et il y a des fonds aux États-Unis, mais pas seulement, et l'Argentine a été une des victimes de ces fonds vautours qui justement attendent que les gens, exactement le mot vautour veut bien dire ce que c'est, attendent que les gens aillent mal pour venir chercher les dernières choses. On l'a connu en France et en Europe avec les entreprises où il y avait des racheteurs d'entreprises. Ils rachetaient pour pas cher des choses en revendant par pièces. L'homme a disparu, la réalité a disparu. Ce qu'il y a, c'est faire du profit sur le dos de ceux qui sont en faillite ou ceux qui sont en faiblesse. Et donc, c'est le mot défaut. C'est vraiment la faillite qui est intéressante. Et donc, on parie sur ce qui va mal. Voilà un exemple.
À ce sujet, donc, le document dit la chose suivante. À la veille de la crise économique de 2007, les marchés des CDS étaient si impressionnants qu'ils représentaient à peu près l'équivalent de l'ensemble du PIB mondial. Donc, c'est pas un produit financier parmi d'autres. Hein. Situation moralement inacceptable, cannibalisme économique. On va faire une première pause. Et puis, après, on va essayer de voir les remèdes et les solutions qui sont avancées par ce document.
Emmanuel Pella.
Finance internationale, le pape François tape du poing. C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Marcel Raymond, qui est jésuite, directeur du CERAS, Centre de Recherche et d'Action Sociale, grand centre de recherche des jésuites, et Bernard Ibal, agrégé et docteur en philosophie et président des Semaines Sociales de Toulouse. Ce texte donc, qui a été publié à la mi-mai, tout récemment, intitulé « Considération pour un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel ». Voilà, texte qui probablement fera date. Texte précis, on va dire, analyse au scalpel, avec, si par hasard vous nous preniez en cours de route, pour une condamnation extrêmement forte de certaines pratiques dans le monde de la finance aujourd'hui. Alors, on s'était dit que dans cette deuxième partie d'émission, on allait parler des remèdes. Ces remèdes, c'est comme des vertus cardinales que l'Église ne cesse de donner à temps et à contre-temps. Marcel Raymond, est-ce que vous pourriez nous les rappeler, sans citer dans ce texte ce qu'on appelle la promotion intégrale, la destination universelle des biens ou l'option préférentielle pour les plus pauvres? Au milieu de la description de telle réalité, on a l'impression que c'est presque des déclarations angéliques. Comment vous repréciseriez ces vertus cardinales que le pape appelle de ses voeux pour le monde de la finance?
Ben, c'est principalement des remèdes éthiques pour l'instant. Alors, on voit bien la difficulté du document, c'est qu'il met le point sur les dangers, sur les constats immoraux, mais au niveau des remèdes, c'est un petit peu comme un prêtre face à un pénitent. Ce qu'il va lui donner comme remède, c'est d'essayer de se convertir et de faire le bien. Alors ici, c'est un peu des remèdes éthiques. C'est vrai que le pape propose, enfin le texte plutôt, mais le pape le faisait ailleurs, propose des comités éthiques dans les banques. Il demande à tout le monde d'avoir un discernement sur l'utilisation de l'argent. Il propose de moraliser la finance.
Avant de voir les solutions concrètes, est-ce que vous pouvez parler de ces grands principes qui devraient régir le monde économique et celui de la finance, inspiré de la doctrine sociale de l'Église, et qui sont cités par ce document?
Ok, je pensais. Donc, au niveau des remèdes, c'est les grands principes de la doctrine sociale. Donc, la promotion intégrale, c'est le développement intégral, c'est ce qui vient depuis Populorum Progressio, qui est l'encyclique du pape Paul VI, mais qui est que l'homme est la finalité de tout notre agir. Et donc, c'est intégrale dans le sens où c'est tout l'homme et tous les hommes. Et donc c'est aussi bien l'entièreté de l'homme, c'est-à-dire que ça doit servir aussi bien au bien-être ensemble et autres, mais aussi à la spiritualité, à la paix et autres. Et tous les hommes, il ne faut absolument pas y avoir d'exclus ou de, comme dit le pape, de déchets qui sortent de ce système. La destination universelle des biens, ben, c'est que le bien est un don de Dieu, donc la terre, les richesses, les ressources, tout ce que nous recevons est don de Dieu, et donc la destination universelle des biens, c'est que ce bien n'est pas pour moi, et bon, c'est un principe, une vertu, on n'est pas égoïste, on est le bien est destiné à l'ensemble des hommes, et nous en sommes simplement locataires pendant le temps de notre vie, et nous devons faire comme un talent, et c'est vraiment l'évangile des talents, nous recevons ce talent, et nous devons le faire fructifier, mais pas pour nous, mais pour le bien-être du monde, et même celui qui n'a reçu qu'un talent le rend à la fin. Chacun de nous, nous avons reçu un talent.
Et l'option préférentielle pour les plus pauvres, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez rappeler?
Et alors, l'option préférentielle pour les plus pauvres, ça, c'est un des principes qui est... C'est-à-dire, si on doit faire un choix éthique, puisque c'est un document sur le discernement éthique, si on doit faire un choix éthique entre un bien et un plus grand bien, le plus grand bien va toujours vers l'option préférentielle des plus pauvres. Ça, c'est simplement l'imitation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsqu'il Jésus avait devant lui des personnes, la première personne qu'il regardait en premier, qu'il préférait, c'était la brebis perdue. Il est venu pour sauver ceux qui étaient en souffrance et pas les bien portants. Donc, l'option préférentielle pour les plus pauvres, c'est un thème qui vient de l'Évangile, mais qui a été évidemment réécrit en particulier dans l'Amérique latine, avec la théologie de la libération, mais et donc qui est très présente dans le pape François, où le plus pauvre, le plus fragile, l'enfant à naître, le réfugié, doivent être l'objet de notre attention, la première, parce que c'est notre frère qui est en souffrance.
Bernard Ribal, sur ces grands principes, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? On en est loin, là, on va dire.
La phrase que vous avez citée et qu'a fort bien commenté Marcel Raymond est tirée de Sollicitudo Rei Socialis de Jean-Paul II en 1987. Il faut ajouter, et toutes les encycliques le rajoutent, là, parce que c'est juste une ligne là, qui est citée, il faut ajouter le bien commun, le texte en parle, il faut ajouter la dignité de la personne humaine, le texte en parle. Bon, on ne va pas tout énumérer. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'effectivement, l'insistance est sur l'éthique. Beaucoup plus que sur la science économique elle-même, qui donnerait des remèdes. Dès le paragraphe 7, le texte dit qu'il n'y a pas de recette, qu'il ne s'agit pas de donner des recettes. Et effectivement, il n'y a pas de recette dans ce texte. Mais il y a une analyse quand même, hein, une analyse détaillée, relativement détaillée, des travers du système financier actuel. Et le principal argument, c'est l'appel à la conversion, au sens fort du mot conversion, pas la conversion de l'incroyance à la croyance, mais la conversion au sens métanoïa de l'évangile grec, c'est-à-dire un changement radical d'optique. Et pour le texte, il n'y a finalement que la morale qui peut nous sauver. Parce que la loi, certes, et un appel à la loi, hein, en particulier à l'homologation des produits financiers.
On en parlera juste après. Oui.
Voilà. Mais même dans ce cas-là, le texte dit, ben, ça ne suffira pas parce que le contournement de la loi sera toujours possible et tentant. S'il n'y a pas la morale derrière... Alors, commission éthique, oui, mais cette commission éthique peut-elle avoir autorité? Qui est le détenteur de la morale? Nous, on est catholiques, nous, on sait où ça se passe, mais dans une société laïque, où est le détenteur de la morale? Les solutions ne sont pas données, mais la tendance est bonne, et je suis persuadé que ce texte a raison. Effectivement, s'il n'y a pas une conversion éthique des facteurs et des agents économiques, on ne changera rien. Je pense par exemple à la titrisation. Titrisation, c'est un vocabulaire économique qu'emploie le texte, où dans la crise des subprimes, mais avant comme après, hein, mais là ça s'est vu, on a mis la poussière sous le tapis. C'est-à-dire qu'on a pris les titres toxiques, à savoir les titres qui n'avaient plus aucune valeur à cause de cette crise des subprimes, et on les a mélangés à des titres qui avaient, eux, une valeur. Et on les a tellement mélangés et remélangés qu'à la fin, on ne sait plus, et même encore en 2018, on ne sait plus dans les banques quelle est la toxicité de tel ou tel produit. On arrivait à s'y retrouver.
De fait, dans le document, je ne retrouve pas le passage, mais plusieurs fois, il me semble, ce document laisse entendre que le système financier semblerait devenir tellement fou que parfois il ne sait même plus, comme le vient de l'expliciter Bernard Ibal, tout à fait ce qu'il fait. Alors j'aimerais qu'on voit maintenant, parmi les grands remèdes, il y a chose qui avait été avancée auparavant, l'injonction d'une régulation supranationale des marchés. Je cite cette phrase, étant donné la globalisation actuelle du système financier, une coordination stable, claire, efficace s'impose entre les différentes autorités nationales de régulation des marchés avec la possibilité parfois et aussi la nécessité de partager en temps opportun les décisions contraignantes. Bref, une organisation supranationale des marchés et je ne retrouve pas exactement le passage, mais je vous laisserai commenter, comme une accréditation, une validation de tous les produits financiers proposés par les banques et ceux aux quatre coins de la planète. Qu'est-ce que vous direz sur ce sujet de la régulation supranationale des marchés, Marcel Raymond ?
Ben c'est une idée qu'on retrouve dans beaucoup d'encycliques de la doctrine sociale. Quand on a les encycliques sur la violence, la guerre et la paix, c'est la première chose que le pape demande. Il rappelle bien le rôle que l'Église, ce n'est pas à l'Église de faire la loi, ce n'est pas à l'Église de réguler, mais sans régulateur, l'homme ou la société peut déraper ou devenir toxique, comme on l'a dit. Et donc, la demande d'une autorité de régulation, c'est quelque chose que l'Église, que le Vatican a très souvent eu comme solution. Pour l'instant, on en est loin. Mais on voit bien quand même que, par exemple, en Europe ou aux États-Unis ou dans les grands continents, on a des banques centrales qui essayent de réguler. Je pense que l'Europe aurait vécu les crises un peu à l'américaine si elle n'avait pas eu une régulation interne forte. Donc, c'est un modèle qui fonctionne, mais qui demande la coopération, qui demande justement des choix étatiques ou supra-étatiques, supranationaux, pour que on puisse réguler et mettre son nez dans. Donc, il y a toute une série d'associations qui soutiennent cette demande de transparence, puisque c'est ça, et aussi de régulation. Et si vous avez eu accès au dernier rapport d'Oxfam sur le 440, c'est ce qu'ils demandent, c'est la transparence, la régulation des produits financiers, en disant c'est pas normal que en France sur les CAC 40, deux tiers des ressources, des profits plutôt, vont chez les actionnaires, c'est-à-dire retournent dans la finance et ne sont pas investis ou ne sont pas pour la chose réelle. Donc, je pense que si on veut réguler, il faut un gendarme, il faut des surveillants, il faut des sentinelles. Sinon, on a des réalités qui sont un peu hors imaginaire, disons un peu comme le footballeur qui gagne tellement d'argent. Ici, on a des sociétés comme Apple qui possèdent de la richesse dans ses trésoreries. Ils ont en caisse plusieurs milliards de dollars, tellement fort qu'ils peuvent être plus forts que le Chili ou le Portugal ou d'autres pays. Donc on a des sociétés qui sont plus fortes qu'un pays. Donc sans se mettre ensemble en tant que nation, on n'y arrivera pas. Et c'est pas le Vatican qui va pouvoir réguler tout ça. Donc par contre, un tout petit mot pour revenir sur les remèdes et les différentes grandes balises, on en avait cité. Une qui manque fort dans ce document, et je suis étonné en voyant les signatures, c'est le rapport à l'écologie. Parce que dans l'audat aussi, c'est clair que les finances vont à l'encontre de la planète aussi. C'est-à-dire que le profit toujours demandé fait que pour pouvoir gagner plus, on va peut-être faire des déchets des hommes, mais on fait aussi énormément de mal à la planète en déforestant en Amérique latine la forêt amazonienne ou en prenant des ressources pour faire du courant électrique et des choses comme ça. Donc il y a énormément d'impact sur l'écologie, sur la biodiversité qui sont dus aussi aux finances. Et je me serais attendu dans un texte inspiré par le pape quand même quelque chose là-dessus. Ce n'est pas là. Voilà,
Peut-être
c'est tout
que
simplement pour dire
ça.
que ça fait partie des nouveaux repères de la doctrine sociale.
Peut-être
Laudato si' a rajouté cela, oui.
que ça renvoie justement à Laudato si'. J'aimerais que vous expliciez
Oui.
aussi une autre grande mesure qui est l'un ou l'autre qui est demandée par ce texte ou qui est suggérée. C'est donc la séparation du crédit ordinaire, on va dire de l'épargne de monsieur et madame tout le monde, des banques d'affaires. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez expliquer Bernard Ribal ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que c'est une demande
Oui,
du Vatican?
à l'échelle mondiale, ce n'est pas le cas, et surtout dans le. En France, ça pose des problèmes, effectivement. Mais le système anglo-saxon a depuis longtemps, séparé les deux. D'un côté, les banques d'affaires, qui jouent en bourse, qui peuvent aussi être positives, le texte le dit, c'est-à-dire réellement financer les entreprises au moment où il le faut et comme il le faut, mais qui prennent des risques en tant que banque d'affaires. Et puis il y a les banques de dépôt, qui sont les banques dans lesquelles on va, vous et moi, avec nos salaires et nos carnets de chèques et notre carte bleue, qui doivent être mis à l'abri de ces transactions parfois risquées.
Et donc, c'est pas le cas en Europe.
En France, c'est-à-dire que la culture économique française a pris l'habitude de financer les entreprises par le crédit bancaire, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est quasiment systématiquement le recours à la recapitalisation, à l'entrée de nouveaux capitaux, c'est-à-dire généralement par des bourses. Ils n'utilisent pas comme nous, de façon massive, le crédit bancaire. Donc là, effectivement, il y a un éclaircissement à faire, sans doute en France et ailleurs. Mais c'est pas partout, c'est pas partout dans le monde.
Marcel Raymond, on va faire une deuxième pause. Est-ce qu'il y a une autre mesure que vous voulez souligner? Il y en a beaucoup qui sont citées. Est-ce qu'il y en a une que vous voudriez
Donc
citer avant
en fait, dans les.
qu'on fasse une pause?
Oui, je pense que par exemple, la séparation crédit et dépôt était importante parce que une des choses, lorsque vous utilisez le dépôt des gens pour pouvoir faire des manipulations financières, à un moment donné, on devient trop gros pour tomber en faillite, et donc too big to fail, comme on dit. Et c'est ça qui fait que finalement, c'est l'État qui doit rembourser les
Eh oui,
banques
eh oui.
qui ont donné trop d'argent à tout le monde, et puis finalement, c'est notre argent. On va dire, ah ben oui, on ne sait pas rembourser les pauvres personnes. Et donc, alors, dans un pays où ils ne sont pas soutenus par la Banque centrale, comme en Argentine, ben, c'est les pauvres personnes, les pauvres dépositaires qui perdent leur argent et qui vont à la rue et qui passent de la classe moyenne à la classe pauvre. Ou alors, ben, c'est l'État qui prend un impôt sur tout le monde et pendant 10 ans, comme en Italie ou en Grèce, ils sont obligés de revenir. Donc, il y a un rapport, c'est-à-dire, c'est pas simplement une décision technique de séparer le dépôt et de la finance, c'est aussi qu'à un moment donné, les financiers ont joué sur le fait que ben ils savaient pas rembourser les dépôts et donc finalement c'était à l'État de travailler puisque eux ils étaient trop gros. Et c'est une des questions, c'est la régulation, c'est qu'à un moment donné on est trop gros. Et donc on se rend compte que dans le texte ils mettent le point sur toutes ces dérives où finalement les financiers se pensent, je dirais un peu maîtres du jeu. Et une des grandes parties sur lesquelles ils travaillent beaucoup et en disant qu'il faut absolument réguler ça, c'est tout ce qui est les paradis fiscaux, c'est-à-dire la
Alors
finance
allez-y, oui,
offshore.
finissez par ça, peut-être la finance offshore
Oui.
en deux, trois mots, si vous pouvez expliciter
Voilà,
et
allez,
nous dire
c'est-à-dire que
ce que ce texte appelle de ses voeux.
voilà. C'est étonnant parce que ça fait 2, 3 pages dans le document et donc c'est très bien développé. Si vous voulez comprendre les paradis fiscaux, il faut lire le document. C'est vraiment, ben voilà, c'est tout à fait légal. On va mettre son argent dans un pays comme l'Irlande où on a moins d'impôts, où on va au Luxembourg où on a moins d'impôts. Et là, finalement, on gagne beaucoup plus simplement parce qu'on a pris son argent, on le met ailleurs. Ce qui se passe, c'est que ça permet aux financiers de gagner plus, mais alors que l'argent vient d'un autre pays où cet argent était nécessaire. Donc on épuise par exemple la France en prenant l'argent français pour le mettre en Suisse. Et en Suisse, ben là, ça va rentabiliser en Suisse. Comme ils n'ont pas besoin de tout cet argent, ils peuvent faire un meilleur profit. Voilà, le paradis va générer des richesses paradisiaques. pour celui qui a mis de l'argent là-bas. Mais il a évité l'impôt, il a évité la taxe de rétribution nécessaire pour faire fonctionner la France. Et donc, on dématérialise ces richesses, on les envoie. Tout le monde connaît ça dans le sens où on essaye d'éviter l'impôt, ce qui, de temps en temps, dit le texte, est un peu juste parce que les impôts sont trop élevés ou sont pas justes. Mais en fait, il y a aussi cette solidarité internationale ou dans la nation plutôt. Voilà, l'importance de la redistribution, et c'est une question qui est attaquée par le texte en disant ben, il y a une sorte de solidarité qui est le principe de la doctrine sociale.
Alors aujourd'hui, c'est le cas flagrant de la différence entre le licite et l'immoral. Quoi. La plupart du temps, les paradis fiscaux, pas toujours, hein, mais la plupart du temps, sont légaux, licites. C'est la libre circulation des capitaux. Il suffit d'avoir une filiale et une filiale bidon dans un paradis fiscal pour que les choses soient finalement légales. Mais sont-elles morales, quoi ? Et le texte insiste très souvent hein, sur des faits qui peuvent être légaux, ils emploient le mot licite, qui peuvent être licites, mais qui ne correspondent pas du tout à une attitude morale.
Aujourd'hui, plus de la moitié du commerce mondial est effectué par de grandes structures qui réduisent leurs charges en transformant les revenus d'un siège à l'autre selon les convenances, c'est ce que dit le texte. Soulignons aussi que du coup, ça peut donner lieu à un blanchiment d'argent. Le texte parle d'hypocrisie et puisqu'il a été interrogé par le journal La Croix, je le cite, Patrick Artus, directeur de la recherche économique chez Natixis, justement laisse entendre que tout cela est licite et donc il ne comprend pas ce texte. Bref, on va faire une deuxième pause et puis après, à la fin de cette émission, on va essayer de voir avec cette question en fait, toute simple, et nous dans tout cela, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que le pape François va presque jusqu'à parler de chacun d'entre nous, disant que notre manière de consommer et d'épargner est aussi, ou pas, enfin, oui ou non, une validation de ce système économique et financier, et qu'il faut commencer peut-être par balayer dans son propre portefeuille.
Présence à Auch 89.6. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Silence international, le pape François tape du poing. Pour rappel, si vous nous prenez en cours de route, nous commentons un texte publié par le Vatican il y a quelques jours sur l'urgence d'une réforme du système économique et financier actuel. Et nous sommes avec Marcel Raymond, jésuite et directeur du CERAS, Centre de Recherche d'Action Sociale, et Bernard Ribal, président des Semaines Sociales de Toulouse. Dans cette dernière partie d'émission, comme annoncé, il nous reste 10 petites minutes. Le texte renvoie un petit peu la balle au lecteur. Alors probablement que ça ne sera pas forcément lu par le grand public, quoique. Parlant d'une autre urgence, d'une métanoïa, comme dit Bernard Ribal, d'une conversion profonde, c'est quant au mode de consommation et d'épargne. Qu'est-ce que vous avez lu, Marcel Raymond, et compris de cet appel à la fin du texte ?
Ben, comme dit le texte, chacun, on parle du vote par son portefeuille, donc on peut faire un discernement de l'usage de son argent. Mais je pense que si on veut bien discerner, alors c'est vrai que le texte donne des pistes, mais il faut toujours se rappeler ce que le pape François dit depuis le début, et puis c'est vieux comme l'évangile, disons, c'est la logique du don. On oublie toujours que l'économie, c'est une économie humaine, et que le cœur même de l'économie, c'est la confiance. Si on n'a pas de confiance en celui à qui on donne son argent, qui ne va peut-être pas nous donner ce à quoi on a dû, ce qu'il nous est dû, on n'a pas confiance. Ben voilà, on voit bien les agriculteurs, ils se font confiance, ils se tapent dans les mains. Il y a une confiance. L'économie, c'est nécessairement une confiance et un don et un contre-don. Alors, la monnaie n'a été créée que pour faciliter un don à plusieurs. C'est-à-dire, bon, moi, je peux donner quelque chose à quelqu'un, je peux lui réparer sa voiture, mais il n'a qu'une seule voiture. Par contre, lui, j'ai pas besoin de ses pommes, mais j'ai besoin peut-être de la viande du boucher. Le boucher, lui, il a besoin des pommes du... Voilà. Et finalement, l'argent circule comme étant un symbole, une image de ce qui est dû de chacun, et une sorte de lettre de créance qui circule, et ça devient... Or, maintenant, l'argent, d'abord, dans la tête des gens, ben, on n'en a quasi plus, on va chercher ses courses, on fait ses achats avec une carte magnétique, et on ne sait plus très bien bon qui a quoi, donc on a perdu cette logique de transaction humaine. Or, c'est quand même ça, l'économie fondamentale, c'est l'ouvrier... donne sa force de travail et en contrepartie, il a son salaire qui va lui permettre d'avoir d'autres dons, d'autres objets, d'autres biens. Et donc, cette logique du don, il faut essayer de la retrouver. C'est-à-dire, chaque fois qu'on fait une transaction avec quelqu'un, il faut pouvoir se rendre compte que c'est une transaction entre hommes. Ça permet de nous communiquer entre hommes des biens, des services ou du don même. Et donc, ce que dit le texte, c'est faites attention, discernez sur quel est votre usage de l'argent et en particulier lorsque vous le placez. Alors, on est encore au début de cela, mais il y a quand même déjà pas mal de pays et pas mal de banques qui proposent qu'on place l'argent dans des dépôts éthiques, peu importe la forme que l'on a.
Investissement socialement responsable, comme on dit souvent.
Je ne veux pas citer des banques, mais il y en a toute une série qui a des placements responsables, qui sont contre le nucléaire, contre l'extractivisme. Les églises commencent et les congrégations religieuses l'ont déjà fait beaucoup avant, en disant, par exemple, on boycotte les banques qui s'occupent de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, il y a tout un mouvement qui permet quand même, et l'argent étant nécessairement lié à la confiance, lorsque le consommateur ou lorsque un groupe de consommateurs refuse de donner l'argent à une banque ou fait du lobbying contre une banque parce qu'elle utilise l'argent de façon immorale, à ce moment-là, ben, ça a un impact parce que, ben voilà, la confiance est rompue. Donc, ce que dit le texte, c'est n'hésitez pas à soutenir des démarches virtueuses dans l'utilisation de l'argent.
Voilà,
Je serais attendu à aller un peu plus loin dans le sens où je suis étonné qu'en un texte sur la finance, on n'ait pas cité l'évangile où il y a quand même l'aspect de l'idolâtrie. On ne peut pas servir deux dieux à la fois, soit c'est Dieu, soit là c'est l'argent. Ici, l'aspect idolâtrie, qui est quand même très fort, parce que je pense que l'argent est une idole et on est prêt à sacrifier sa propre vie même de temps en temps ou la vie d'autres pour ça. Et là, il faut quand même faire attention, on est en train de... Il y a un respect de Dieu. C'est pour ça que je pense que ce texte doit parler aux chrétiens, parce que si on veut respecter sa foi en Dieu, il faut se dire qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois.
Je cite un ou deux passages, car même par le geste apparemment anodin de la consommation, nous exprimons une éthique en parlant une éthique en acte, et nous sommes appelés à prendre position face à ce qui est concrètement bon ou nuisible pour l'homme. Et puis un peu plus loin à propos de l'épargne personnelle, la gestion des épargnes, en les orientant par exemple vers des entreprises qui fonctionnent selon des critères clairs, inspirés d'une éthique respectueuse de tout homme, voilà, et ben on fait un usage correct de notre argent, de nos biens. Un usage responsable. Bernard Ibal, pour finir, votre commentaire sur cet appel à la responsabilité de tout à chacun, ou peut-être un commentaire sur la place de la gratuité.
Oui, un commentaire sur ce qui vient d'être dit. On a été plusieurs au Conseil économique, social, environnemental, et d'ailleurs l'idée est passée au moins au niveau du CESE, de la traçabilité des produits et services, traçabilité sociale et traçabilité écologique, que sur le service ou le produit puisse être marqué par un symbole quelconque.
Ce qui est demandé par la CFTC. CFTC,
oui,
que vous accompagnez.
Oui, mais ça a été proposé donc par la CFTC et ça a été admis par la grande majorité du Conseil économique et social. De même, en ce qui concerne l'épargne, il existe le CIES. Le CIES qui est le comité intersyndical de l'épargne salariale et qui produit chaque mois je vais me répéter le mot produit là, qui produit les produits financiers à bannir et ceux qui sont conseillés en fonction de leur responsabilité sociale et environnementale. En ce qui concerne le don, déjà Benoît XVI en avait beaucoup parlé de cette économie du don. Mais c'est tous les jours, quoi. Un employé qui a une forte conscience professionnelle en fait plus, ou du moins il ne se demande pas s'il en fait plus ou moins que son salaire, il se donne à ce qu'il fait. Et il y a là une économie du don. L'économie parentale est une économie du don. Et l'avenir peut être éventuellement radieux dans le sens d'une économie du don si l'on écoute un économiste, mais il est parfois contesté, comme Jérémy Rifkin, qui parle d'économie collaborative, même s'il y a des changements d'adjectifs sur collaboratif, c'est le terme générique, c'est l'économie collaborative, qui va justement dans le sens plus du partage que de la concurrence. Ce que le texte veut à tout prix éviter, c'est l'extension culturelle de ce paradigme financier où il faut à tout prix faire du profit. Il dit, je le cite, hein, « L'efficacité, la concurrence, le leadership, le mérite s'étend à, et ça c'est dans le paragraphe 17, s'étend à toute la société, pas simplement à l'économie, pas simplement aux finances. Il y a une sorte d'effet buvard, quoi, hein, une sorte de contagion. On le trouve dans le sport d'ailleurs, hein, ces idées d'efficacité, concurrence, leadership, mérite. On le trouve en politique aussi. Donc ça ne sera pas facile d'effacer tout ça. Et je regrette, moi, qu'il ne parle pas davantage de la définition de l'entreprise.
Bernard Ibal, juste l'émission touche à sa fin.
Pardon,
je suis obligé de vous couper. Il manque certainement plein de choses à ce texte.
Oui.
Non, je suis désolé, l'émission est finie. Il faut qu'on rende l'antenne.
Voilà.
Merci beaucoup ce matin d'être venu commenter donc ce texte à lire du Vatican sur la finance. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Francky Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.